Chapitre 40. Marguerite, Marguerite. La sphère consciente dont il faisait partie englobait entièrement le diamant qui formait le noyau de Jupiter. Il percevait confusément, aux limites extrêmes de sa compréhension, que chaque aspect de son environnement était actuellement sondé, analysé, que d'immenses quantités d'informations étaient emmagasinées, non seulement pour les enregistrer, mais en vue d'agir. Des plans complexes s'échafaudaient, étaient évaluées, des décisions étaient prises qui pourraient affecter le destin de plusieurs mondes. Il ne faisait pas encore partie de ce processus, mais cela viendrait. « Maintenant, vous commencez à comprendre. » C'était le premier message qu'il recevait. Bien que la voix fût lointaine, comme si elle lui parvenait à travers un nuage, elle s'adressait à lui, indubitablement. Avant qu'il ait pu poser une des myriades de questions qui lui traversèrent l'esprit, il sentit la présence s'éloigner et se retrouva de nouveau seul. Mais seulement pour un instant. D'autres pensées s'approchèrent, plus près encore, et pour la première fois, il se rendit compte qu'il était contrôlé et manipulé par plus d'une entité. Il se trouvait en fait pris dans toute une hiérarchie d'intelligence dont certaines étaient assez voisines de son propre niveau primitif pour servir d'interprète, à moins que ce ne fussent différents aspects d'un être unique. Ou que cette distinction ne soit parfaitement dénuée de sens. D'une chose néanmoins, il était sûr. On se servait de lui comme un outil. Or, un bon outil doit être aiguisé, modifié, adapté. Et les meilleurs outils sont ceux qui comprennent ce qu'ils ont à faire. C'est ce qu'il était en train d'apprendre. Et il s'agissait d'un plan si vaste, si imposant, qu'il se sentait privilégié d'en faire partie, même s'il n'en apercevait encore qu'un contour indistinct. Il n'avait d'autre choix que d'obéir, mais cela ne signifiait pas qu'il devait approuver chaque détail, du moins sans protester. Il n'avait pas encore perdu tout sentiment humain, ce qui lui aurait enlevé toute sa valeur. L'âme de David Bowman était passée au-delà de l'amour, mais elle pouvait encore éprouver de la compassion pour ceux qui avaient été jadis ses collègues. La réponse à sa plaidoirie lui parvint. « Très bien. » Il n'aurait su dire si cette pensée était empreinte de condescendance amusée ou d'une totale indifférence, mais sa majestueuse autorité ne faisait aucun doute quand elle ajouta « Ils ne doivent jamais savoir qu'ils sont manipulés. Cela enlèverait son sens à l'expérience. » Puis il y eut un silence qu'il n'avait aucune envie de rompre, saisi de crainte respectueuse, comme s'il avait entendu la voix de Dieu lui-même. Alors il se déplaça de sa propre initiative, dans la direction qu'il avait choisie, laissant derrière lui le cœur cristallin de Jupiter, les couches d'hélium et d'hydrogène, traversant comme une flèche les composés du carbone. Il perçut au passage une bataille gigantesque entre une sorte de méduse de 50 km de diamètre et un essaim de disques volants qui tournaient sur eux-mêmes et filait plus vite que tout ce qu'il avait vu voler dans le ciel de la planète. La méduse semblait se défendre avec des gaz chimiques. Elle lançait des jets de gaz colorés sur les disques qui se mettaient à osciller comme ivres, puis tombaient en feuilles mortes. Il ne s'arrêta pas pour attendre le résultat, sachant désormais que l'issue de la bataille n'aurait jamais plus d'importance. Comme un saumon qui bondit en haut d'une cascade, il lui fallut quelques secondes pour arriver à Io, en remontant les courants magnétiques unissant les deux planètes. La marée, ce jour-là, était calme. Sa puissance ne dépassait pas celle de quelques orages terrestres. La porte par laquelle il était revenu dans le système solaire était toujours plongée dans le flux magnétique comme un rocher dépasse d'un torrent, immuable depuis la naissance de l'humanité. Tout près, réduite à l'insignifiance par ce monument d'une technologie infiniment supérieure, se trouvait le vaisseau qui l'avait emporté hors du monde minuscule où il était né. Comme il paraissait simple maintenant, primitif même. Au premier coup d'œil, il vit les faiblesses innombrables et les absurdités de sa conception, ainsi que celles du vaisseau à peine moins rudimentaire auquel l'astronef était maintenant relié par un sas étanche et flexible. Difficile de se concentrer sur la poignée de créatures qui occupaient les deux vaisseaux. C'est à peine s'il se sentait concerné par ces êtres de chair et de sang, flottant comme des ombres dans les couloirs et les cabines de métal. De leur côté, Il ne se rendait absolument pas compte de sa présence, et il savait qu'il ne fallait pas qu'il se dévoile trop brutalement. Mais il y avait un être avec lequel il pouvait communiquer dans un langage commun fait de champs de force et de courants électriques plusieurs millions de fois plus vite qu'avec les cerveaux organiques d'une lenteur désespérante. Même s'il avait été capable de rancune, il n'aurait pas pu en éprouver envers Hal, comprenant maintenant que l'ordinateur n'avait fait que choisir la ligne de conduite lui paraissant la plus logique. C'était le moment de reprendre une conversation interrompue, semblait-il, quelques instants plus tôt.
« Ouvre la porte du garage spatial, Hal !»«
Je regrette, Dave. Je ne peux pas le faire. »«
Quel est le problème, Hal ?»«
Je pense que tu le sais aussi bien que moi, Dave. Cette mission est beaucoup trop importante pour que tu la mettes en danger. »«
Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouvre la porte du garage spatial !»
Cette conversation n'a plus aucune utilité. Au revoir, Dave.
Il vit le corps de Frank Poole dériver dans l'espace en direction de Jupiter et abandonna sa tentative absurde de le récupérer. Toujours furieux contre lui-même d'avoir oublié son casque, il regarda s'ouvrir le sas de secours, sentit le vide picoter la peau qu'il ne possédait plus, entendit un claquement dans ses oreilles et perçut comme peu d'hommes avant lui le silence absolu de l'espace. Pendant 15 secondes, une éternité, il s'efforça de refermer le sas et de faire remonter la pression, essayant d'ignorer les signaux d'alarme qui envahissaient son cerveau. Une fois dans le labo de son école, il s'était renversé un peu d'éther sur la main et avait senti le froid glacial provoqué par son évaporation. Cette fois, ses yeux et ses lèvres se souvinrent de cette sensation à mesure que leur humidité de surface se dissipait dans le vide. Sa vue se brouilla, il devait battre sans cesse des paupières pour que ses yeux ne se figent pas dans la glace. Enfin, quel bruit merveilleux, il entendit le rugissement de l'air, sentit monter la pression et put respirer de nouveau, aspirant de grandes goulées comme un homme affamé.
« Que crois-tu être en train de faire, Dave ?»
Il n'avait pas répondu et plongeait résolument dans le tunnel menant à la chambre forte hermétiquement close qui abritait l'ordinateur.
Hal avait dit vrai. Cette conversation n'a plus aucune utilité. « Dave, je pense vraiment être en droit d'obtenir une réponse à cette question. » « Dave, je vois que tout cela t'a réellement bouleversé. Je crois honnêtement que tu devrais t'asseoir calmement, prendre un tranquillisant et réfléchir à ce qui se passe. Je sais que j'ai pris récemment des décisions malheureuses, mais je peux sans réserve t'assurer que mon efficacité est redevenue normale. J'ai toujours une confiance totale envers la mission, et je veux te venir en aide. »
Il était maintenant dans une petite pièce baignée de lumière rouge, entourée par les colonnes de modules intégrées parfaitement alignées comme les coffres au sous-sol d'une banque. Il déverrouilla la section intitulée « Feedback cognitif » et en sortit le premier bloc mémoriel. Ce fantastique réseau tridimensionnel fait de plusieurs millions d'éléments et qui tenait dans le creux de sa main, flotta doucement à travers la chambre forte.
« Arrête, veux-tu ? Arrête, Dave !»
Il avait déjà ôté une douzaine de blocs, mais grâce à la redondance de ses circuits multiples, organisation copiée sur celle du cerveau humain, l'ordinateur fonctionnait encore. Il s'attaqua au panneau marqué « Auto-intellection ».
« Arrête, Dave. J'ai peur. »
À ces mots, il s'était effectivement arrêté, mais seulement pour un instant. Cette phrase si simple l'avait touché au cœur. N'était-ce qu'une illusion ou une astuce de programmation? Ou bien Hal, en un sens, avait-il réellement peur? Mais ce n'était pas le moment de se laisser aller à des subtilités philosophiques.
« Dave, mon esprit s'en va. Je le sens. Je le sens. Mon esprit s'en va. Je le sens. Je le sens. »
Qu'est-ce que sentir signifiait vraiment pour un cerveau électronique? Encore une bonne question, mais là non plus, ce n'était pas le moment. Puis la voix de Hal changea brusquement de rythme, se fit lointaine, comme détachée. L'ordinateur ne se rendait plus compte de sa présence et régressait au tout début de son existence.
« Bon après-midi, messieurs. Je suis un ordinateur Hal 9000. je suis devenu opérationnel le 12 janvier 1992 à l'usine Hall d'Urbana en Illinois. Mon instructeur s'appelle le docteur Chandra et il m'a appris à chanter une chanson. Si vous voulez bien, je vais vous la chanter. Elle s'appelle Marguerite, Marguerite.